Oui, donc vous avez un très beau cadeau. Un très beau cadeau. Deux petits livres, une présentation de l'histoire de Vannes, Marcel Vannes ou l'infinie pauvreté de l'amour. Voilà, c'est votre serviteur qui en est l'auteur. Et puis un colloque avec beaucoup de contributions sur le thème de la rédemption chez certains saints et chez Vannes. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. L'infinie pauvreté de l'amour. Ce sont de beaux titres, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce sont des cadeaux qui vous sont faits par l'association Les Amis de Vannes. Peut-être que nous pourrions commencer, c'est une idée que je viens d'avoir, en chantant un vieux refrain de paroisse des années 70, quand j'étais petit. Puisque nous allons réfléchir ensemble à la question de la liberté. Il y avait un refrain qu'on chante encore parfois comme un parole: Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres, tout est de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Ce sont des paroles simples, mais qui nous disent déjà beaucoup de choses, que Dieu nous libère en Jésus. Et qui nous libère en nous donnant à lui, d'une certaine manière. Hein. Tout est pour lui, tout est par lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Que nous sommes déjà libérés et que nous demandons encore notre libération. Ça fait beaucoup de choses, finalement, hein, dans ce petit refrain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la mélodie. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout est par lui. Tout est pour lui, qu'il nous délivre. On va reprendre, ça vous rappelle le vieux souvenir. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout est de lui, tout est pour lui. Qu'il nous délivre.
Quel est votre nom?
Tout de suite comme ça, là. Gilles Berceville. Le frère Gilles Berceville. C'est pas le plus important de la conférence. Nous allons réfléchir ensemble donc à la liberté, cette liberté que nous donne la foi. Et nous allons le faire d'abord à l'écoute de l'apôtre saint Paul, notamment dans ce qu'il nous dit dans un de ses écrits, la lettre aux Galates. Vous souvenez peut-être d'une affirmation de saint Paul dans la lettre aux Galates, ça va, vous m'entendez? C'est bien? C'est au chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Pour que nous soyons vraiment libres, que Christ nous a libérés. Et en fait, en grec, c'est plus simplement, plus littéralement, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Mais c'est une tournure typiquement hébraïque qui donne au verbe libérer un sens fort. Donc, on peut traduire comme je l'ai d'abord fait, c'est vraiment pour nous libérer qu'il nous a libérés. Il nous a totalement libérés. D'où l'étonnement de Paul dans cette lettre qu'il écrit aux Galates. Comment donc, vous qui avez fait une telle expérience de libération, pouvez-vous retourner à une situation de dépendance? À une situation d'esclavage. Non, dit Paul, ce n'est pas cela que vous êtes appelés. Votre vocation, c'est la liberté. Dieu nous a vraiment libérés en Jésus. Notre vocation, c'est la liberté. Alors, je vais vous apprendre ou vous rappeler, je ne sais pas, les circonstances dans lesquelles Paul écrit son épître. La Galatie, vous savez où ça se situe, la Galatie? Ça se situe dans l'actuel territoire de Turquie, en Asie mineure. C'est entre Ankara et Konya. Ankara, on connaît quand même, on en entend parler de temps en temps. Et les Galates, eh bien, figurez-vous que ce sont nos ancêtres. Ce sont les descendants de guerriers gaulois qui s'installèrent dans la région 3 siècles plus tôt. Enfin, disons plutôt que nous avons des ancêtres communs. Les Gaulois. Mais à l'époque de Saint-Paul, la Galatie, c'est une province de l'Empire romain. Et cela correspond à un territoire que Paul avait évangélisé au cours de son premier voyage missionnaire. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous raconte 3 voyages missionnaires de saint Paul, et le premier voyage missionnaire, il traverse la Crète, et puis il entre en Asie mineure, et il évangélise des cités comme Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbé. Et chaque fois que saint Paul devait se rendre de la Syrie, parce que sa communauté de rattachement était Antioche, en Syrie, donc de la Syrie en Grèce, il a fait notamment des séjours à Corinthe, ou en Macédoine, à Thessalonique. Ce sont des lieux à l'adresse desquels Paul a écrit d'autres lettres, la lettre aux Corinthiens, aux Thessaloniciens. Mais chaque fois qu'il faisait donc ce trajet, il devait repasser par les cités de Galatie, cette grande province romaine au milieu de l'Asie mineure qui avait été évangélisée par Paul, c'est-à-dire que c'était Paul le premier qui avait été faire connaître le nom de Jésus à ces populations, une 15aine d'années après sa propre conversion. Donc Paul, là, les historiens se battent, hein, mais on nous dit que on peut dater la conversion de Paul de 33 à peu près, et c'est entre 45 et 50 qu'il évangélise ces cités de Galatie.
Pardon, ça se passe en quelle langue?
Alors, c'est une bonne question, on va dire en grec. Hein, le globish de l'époque, c'était le grec. Hein, comme aujourd'hui, nous parlons, nous sommes beaucoup à parler l'anglais un peu n'importe comment à cette époque, mais Paul parle un bon grec. Hein, il a été aux écoles, donc c'est le grec d'Oxford, si vous voulez. Pas tout à fait, peut-être, mais voilà, ça se passe plutôt en grec. Mais Paul est bien sûr juif, il connaît aussi l'hébreu. Dans les synagogues, on prie... alors, il y a 2 types de synagogues. Il y a des synagogues hébraïques et il y a des synagogues grecques. Et donc il y a des synagogues où on prie en hébreu, où on lit la Bible en hébreu, et il y a des synagogues où on lit la Bible en grec. Et c'est important pour la vie de Paul, parce que les juifs hellénistes sont plus ouverts, plus progressistes, plus universalistes que les juifs hébraïques qui sont du terrain de la Terre Sainte, comme Jésus l'a été, hein, et plus traditionnel, plus... Nous connaissons au moins un juif helléniste, et nous savons les problèmes qu'il a eu avec ses frères hébraïques, c'est Saint-Étienne. Hein, Saint-Étienne qui prononce un long discours retranscrit dans les Actes des Apôtres, où il développe une conception du judaïsme très ouverte aux nations, aux non-juifs, insistant sur l'universalisme du message des prophètes. Et ça énerve beaucoup ces co-religionnaires juifs. Et puis il y avait aussi beaucoup de personnes qui se rattachaient au judaïsme sans être juives elles-mêmes, alors qu'ils n'avaient pas reçu le signe de la circoncision, qui est un peu le baptême, l'équivalent du baptême pour nous chrétiens, mais donc qui étaient ce qu'on appelle des prosélytes, hein, donc des gens qui cherchent Dieu, des craignants Dieu, mais qui n'étaient pas juifs. Alors bien sûr, ils pratiquent un judaïsme moins pur, moins intransigeant que les autres. Donc, en tout cas, en Galatie, c'est une province romaine, donc on peut aussi parler latin, hein, mais sans doute Paul s'adresse à eux en grec. Et la première fois qu'il la rencontre, les choses se passent de façon très forte et très émouvante. Il nous dit dans l'Épître aux Galates, « Mes enfants, » il s'adresse donc aux Galates, « pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Alors il s'inquiète un peu pour eux, donc c'est comme s'il avait à les enfanter une seconde fois. Il a un rapport très fort, vous voyez, avec ceux auxquels il a annoncé l'évangile du Christ. Et il dit un peu plus loin, toujours dans la lettre aux Galates, « Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois, et si éprouvant qu'ait pu être pour vous ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, vous m'avez au contraire accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Donc un lien très fort, l'uni aux communautés de Galatie. Dans les Actes des Apôtres, presque à quelques exceptions près, et dans les premières lettres de saint Paul, quand on parle de l'Église, on parle toujours d'une Église locale. On dit l'Église qui est à Jérusalem. Là, Paul envoie sa lettre aux Églises qui sont en Galatie. Mais rien ne va plus. Quand il écrit sa lettre aux Galates, Paul est très inquiet et très peiné. À son grand étonnement, avec beaucoup d'amertume, il apprend, quelques années après avoir annoncé l'Évangile, que les Galates ont perdu confiance en lui. Et ils ne sont pas loin de penser qu'il ne leur a pas annoncé le véritable Évangile. Pourquoi donc ? La raison de ce retournement chez les Galates, c'est la visite chez eux de chrétiens judaïsants. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus clair. Hein. Des chrétiens judaïsants qui affirment qu'il est toujours nécessaire, si l'on veut être sauvé, d'avoir reçu la circoncision et de pratiquer les observances de la loi de Moïse, les prescriptions alimentaires et puis le calendrier juif. Or, saint Paul ne leur avait pas dit. Hein, ce n'était pas dans le contrat. Il n'avait pas parlé de circoncision, il n'avait pas parlé de calendrier, il n'avait pas parlé d'observance alimentaire. Et il est catastrophé que l'on ait ainsi, en son absence, complètement déformé le visage de l'Évangile. Que l'on ait détourné ces chers Galates de la foi qui, selon Paul, peut seule leur apporter la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire la confiance en Jésus crucifié, que le Père a ressuscité des morts. Il commence son évangile comme ça, hein, la grâce, la paix de Jésus, mort pour nous délivrer d'un monde mauvais, ressuscité par Dieu le Père. C'est croire ça qui va vous sauver, et pas autre chose. Paul n'est pas contre les observances juives. Il ne demande pas aux juifs de ne plus observer leur propre religion. Mais ce qu'il veut faire comprendre, c'est que désormais, ça n'est pas les pratiques de la loi de Moïse qui sauvent, mais que c'est Jésus qui nous sauve. Et lorsqu'on a connu Jésus, qu'on a été sauvé par lui, revenir ou adopter les prescriptions de la loi de Moïse, comme si Jésus ne suffisait pas, ça c'est grave. Si on n'a pas compris qu'on trouvait tout en Jésus, alors on n'a d'une certaine manière rien compris. On ne sait pas encore qui est Jésus. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ce que Paul appelle l'Évangile, sur la raison pour laquelle Paul est tellement attaché à celui qu'il appelle le Christ. Pourquoi est-ce que c'est pour lui une lumière, une force extraordinaire qui l'ont bouleversé, qui ont transformé son existence et auquel il s'est entièrement donné. Paul a d'abord découvert le Christ, sur le visage d'Étienne. Le visage meurtri d'Étienne, vous vous souvenez peut-être dans les Actes des Apôtres, Étienne rend témoignage à Jésus, et pour cette raison, on le lapide, son témoignage est un martyr, et les personnes qui lapident Étienne déposent leurs vêtements au moment même de la lapidation au pied de Saül, car à l'époque, il s'appelait Saül. C'est quelques années plus tard, alors qu'il était déjà chrétien, qu'il va prendre le nom de Paul. Dans la lettre aux Galates, Paul écrit « Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, j'étais beaucoup plus avancé que la plupart de ceux de mon âge. Je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. » En relisant ces pages, j'ai pensé à un événement qui a touché un homme religieux, mais qui n'était pas chrétien. Le 20 janvier 1948, vous avez peut-être vu ça dans un film, un homme qui s'appelait Nathuram Godse, un jeune hindou extrémiste, issu des élites brahmanes, et craignant que l'hindouisme ne soit menacé de l'intérieur par Gandhi, alors que Gandhi rejoignait à grandes enjambées la foule qui l'attendait pour la prière, bouscule l'entourage de Gandhi et tire sur Gandhi 3 balles à bout portant. Vous avez peut-être vu le film. Et Gandhi s'effondre en disant « Oh Dieu !» Mort admirable d'un homme admirable qui avait été très marqué par Jésus, mais qui n'était pas chrétien. Si je rapporte cet événement, c'est que je rapprocherai volontiers ce que fut ce Nathuram Godse, jeune hindou extrémiste issu des élites brahmanes, de ce que fut Saül en son temps, pharisien, éduqué dans les écoles de pharisiens, très zélé pour les traditions de ses pères, et devenu fanatique, violent, meurtrier, la rage qu'il habite lorsqu'il entend des chrétiens comme Étienne appeler à s'ouvrir à la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, après avoir été tout ça, ce fut pour Paul une grande lumière, la grande lumière de l'Évangile. Alors, comment le dire en peu de mots? Parce qu'il faut comprendre ce qui enthousiasme Paul. Il faut que nous-mêmes, nous replongions nos existences chrétiennes dans cette expérience qui, pour nous, est une expérience fondatrice. Paul est ce que nous venons de dire. Et puis, voilà une grande lumière et il tombe par terre. Dans la Bible, lorsque le Seigneur Dieu met par terre ses ennemis, ça se passe pas bien pour les ennemis, hein. Et là, c'est tout le contraire. Celui qu'il persécute le relève, l'éclaire, le comble de grâce, en fait son apôtre. Ce que Paul découvre alors, c'est une lumière, une force toute nouvelle, la lumière, la force de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit d'agapé. Vous savez qu'en grec, amour, l'amour de charité, se dit agapé. Hein, c'est un amour d'une qualité particulière en grec. C'est un amour tout nouveau, si fort qu'il pardonne vraiment, qu'il pardonne totalement l'ennemi le plus cruel, le réconciliant avec Dieu, le réconciliant avec lui-même, le réconciliant avec le genre humain. Vous savez, puisque nous parlons de Gandhi, que lui-même appelait la non-violence satyagraha, c'est-à-dire force de la vérité. Et Martin Luther King, qui était chrétien, mais qui était un disciple de Gandhi aussi, l'a traduit par force de l'amour. On peut dire que ce que Paul découvre, c'est un amour tellement fort qu'il peut pardonner, comme Étienne avait pardonné à ceux qui l'avaient lapidé. Comme Jésus pardonne à Paul qui avait mis en prison, maltraité des chrétiens, hommes, femmes et enfants. C'est la force de cet amour qui émane de Jésus, qui fait l'évangile de Paul. L'évangile, ça n'est pas un roman à thèse. Il n'y a pas une idée comme l'idée de non-violence à partir de laquelle on construit une doctrine. Ça n'est pas une idée abstraite que Paul découvre, mais c'est ce souffle qui émane de Jésus, de cet homme-là, cette énergie qui émane de Jésus, de ce Jésus qui avait été livré injustement au pire des supplices et que Dieu le Père avait ressuscité. Ce Jésus qui était venu introduire les hommes dans sa propre vie intérieure, qui était une vie d'intimité filiale avec un Dieu tout miséricordieux, celui qu'il appelait en araméen Abba, Père. Lorsque les temps furent accomplis, écrit Paul dans l'Épître aux Galates, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi de Moïse, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils qui s'écrit Abba, Père. Nous appelons Dieu comme Jésus appelait Dieu Père, et affectueusement, Abba. Ainsi, dit Paul, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. La liberté à laquelle nous appelle donc l'évangile de Paul, c'est la liberté des enfants de Dieu. Et il s'en explique plus longuement un peu plus tard, dans une autre lettre aux Romains. Vous n'avez pas reçu, dit-il aux Romains, un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, c'est au chapitre 8 de Romains. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. On retrouve, d'une lettre à l'autre, je dirais, les mêmes composantes de ce qui fait la liberté du chrétien. Une liberté d'enfant, une liberté filiale, une liberté qui est la présence de l'Esprit en son cœur, une liberté qui, faisant de lui l'enfant et le fils, en fait l'héritier des promesses. Pour un ancien comme Paul, être libre, c'est d'abord ne pas être esclave. Ça n'est pas comme nous, modernes, pour qui être libre, c'est d'abord se sentir libre. Être grisé par le sentiment du grand large. Par le sentiment que tous les possibles s'ouvrent devant nous. Pour un ancien, la liberté, c'est pas d'abord un sentiment intime, c'est une condition sociale. Le monde est ainsi fait que certains êtres supérieurs disposent d'eux-mêmes et cette liberté, leur puissance à eux, elle exige qu'un grand nombre d'autres ne justifient leur existence qu'en étant au service des premiers. Le monde, ça ne tourne pas sans esclaves. Ce n'est pas imaginable. Alors soit vous êtes... Vous vivez à votre propre compte, vous êtes un homme libre, soit vous vivez au compte des autres, et vous êtes alors un esclave. Bien sûr, déjà, les philosophes païens avaient attiré l'attention sur le fait qu'on pouvait être roi et esclave, esclave de ses passions, au contraire être esclave, être un homme qui vit dans la dignité, mais cette vérité-là n'était accessible qu'à une petite élite. Ce n'était pas la règle qui régissait le monde réel, le monde des hommes, le monde de la violence, du pouvoir, de l'argent, des ripailles et du sexe. Ce monde présent et mauvais, évoqué par Paul lui-même, dans les premières lignes de son épître, ça n'était pas la vérité d'une éventuelle liberté intérieure de l'esclave qui déterminait la mentalité des masses. Alors dans ce monde, justement, où il y a des maîtres et des esclaves, il y a un peu, j'allais dire petit, mais c'est totalement faux parce qu'ils étaient déjà très nombreux, il y a un grand peuple dispersé en diaspora qui est le peuple juif. Et ce peuple, en tout lieu où les événements l'avaient conduit, parce que les juifs, encore une fois, étaient des millions, ils étaient déjà présents dans l'actuel Irak, en Mésopotamie, ils étaient très nombreux en Égypte, ils étaient très nombreux à Rome, ils étaient très nombreux en Grèce. C'est ce qui permet d'ailleurs à Paul de voyager comme il a voyagé, hein, c'est que sa famille avait probablement des succursales, ou en tout cas des correspondants, hein, ils étaient des commerçants en textile, donc bon, il y avait tout un réseau que Paul pouvait parcourir. Donc les Juifs étaient dispersés un peu partout, mais ils revendiquaient farouchement d'être laissés à part. Ils protégeaient leur liberté derrière la clôture de la Torah et de ses quelques 613 préceptes. Hein. La Torah, c'est exigeant, mais ça fonctionne comme une barrière, comme une clôture. Hein. Et derrière cette clôture, ben, vous êtes à l'écart. Vous êtes consacré à Dieu. Et donc, vous êtes libéré des faux dieux, des idoles, ces fantasmes avides et cruels, ce qui règne sur les païens. Il y a un passage dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, qui dit très bien la fierté que les Juifs peuvent avoir d'être un peuple libre. Vous voyez, encore une fois, la liberté, c'est une question d'appartenance. Appartenance à un peuple, hein, ce n'est pas une question de sentiment intérieur. Nous sommes un peuple qui n'est pas asservi aux idoles. Nous n'avons pour maître que le Dieu vivant. C'est pour ça que saint Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens. À l'époque, les Juifs, quand ils sont des hommes, ne sont jamais couverts dans les synagogues, parce que avoir une couverture sur la tête, avoir un chapeau sur la tête, ça signifie être soumis à quelqu'un. Hein. Et eux, un homme n'était pas couvert, c'est un peu le contraire de ce qu'ils font aujourd'hui, mais bon, peu importe, c'est des symboles uniquement, mais parce que un juif n'avait comme maître que Dieu. Alors, dans l'évangile de Jean, Jésus dit à un certain moment « La vérité vous rendra libre ». Et aussitôt, les Juifs rétorquent « Mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne, comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre ?» Et Jésus leur répond « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. » Parce que ma parole ne trouve pas place en vous. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Alors ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. Ils revendiquent Dieu comme non seulement maître, mais Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous êtes de votre Père, le diable. Et si vous faites les désirs de votre père, homicide dès le commencement. Alors, bon, on se rappelle hein, que dans l'évangile de Jean, quand on dit les juifs, c'est pas tous les juifs, hein, ce sont certains juifs avec lesquels Jésus, qui est lui-même juif, a maille à partir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette fierté du juif. Hein, le juif, il est mis à part pour être libre, en servant Dieu seul. Il a été libéré du pouvoir des idoles. Et ce qui lui assure cette liberté, concrètement, c'est l'observance de la Torah, qui le met à part. On comprend pourquoi des chrétiens judaïsants sont venus après la prédication de Paul pour leur dire « Attention, vous voulez être libre, mais si vous voulez être libre, il faut recevoir la circoncision et pratiquer les commandements. » Et Paul dit non. Pourquoi il dit non? Parce que Jésus étant venu, tous sont appelés à devenir membres de son corps. Désormais, l'appartenance qui va vous libérer du péché, c'est l'appartenance au corps de Jésus. Un corps de Jésus qui s'édifie, qui se construit dans l'agapé. Un corps de Jésus où nous sommes mis au service les uns des autres. C'est ça qui va vous rassembler. C'est ça qui va vous consacrer. Mais désormais, la consécration, ça ne sera plus être mis à part pour se garder d'un monde mauvais. La consécration, ce sera être mis à part pour être envoyé, missionné, annoncer le salut, qui est la vie dans l'agapé de Jésus, au monde entier. On comprend ce qu'il y a au cœur de Paul.
Jésus était circoncis lui-même.
Oui, crois, bien sûr.
Il l'a peut-être assez dit lui-même qu'il ne fallait pas forcément faire ça.
Ah, mais il y a entre, si vous voulez, entre l'enseignement qu'a donné Jésus au cours de sa vie terrestre et l'enseignement que donne Paul, il y a l'événement de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte, ce qu'on appelle le mystère pascal. Et l'esprit n'est répandu qu'après le mystère pascal. Merci beaucoup de votre question, parce qu'elle m'aide à mieux faire comprendre les choses. Désormais, Jésus nous a donné son corps. Désormais, Jésus, exalté à la droite du Père, fait de nous tous, et de manière très réelle, les membres de son corps. L'Eucharistie, c'est pas, si je puis dire, simplement chacun de nous qui reçoit individuellement le corps de Jésus, mais nous recevons le corps de Jésus que nous formons. C'est pour ça que l'Église naît dans l'Eucharistie. Nous devenons, en Jésus, membres les uns des autres. Mais ça n'est possible, évidemment, que lorsque Jésus aura livré son corps dans l'Eucharistie, dans sa passion, et en nous donnant son esprit. Vous voyez ? Bien sûr, Jésus était circoncis, merci de le rappeler. C'est ce que nous fêtons encore, même si ça ne s'appelle plus comme ça, chaque 1er janvier. Huit jours après sa naissance, comme tout jeune juif, Jésus a été circoncis. Paul lui-même le rappelle. Il a été soumis à la loi, mais pour nous émanciper de la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus soumis à la loi ne va pas abroger la loi, mais en lui-même, il va l'accomplir. C'est-à-dire, il va vivre avec une radicalité et une force nouvelle ce qui était le cœur de la loi, l'amour de Dieu et du prochain. Et il va pousser cet amour jusqu'à l'agapé, qui est cet amour si fort qu'il peut pardonner l'ennemi. Lorsque on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. C'est ce qu'a vécu Jésus, Et si nous sommes membres de son corps, c'est ce que nous devons vivre, nous-mêmes. Et ainsi devenir artisans de paix en lui et avec lui.
Et dans l'Évangile, il dit bien « Je ne suis pas venu abolir, mais
rappeler ». Oui, c'est ce que j'essaie de... Donc ça, vous avez raison de le dire, c'est donc dans le Sermon sur la montagne, qu'on trouve en Matthieu chapitre 5 à 7, et là, on voit bien que, en fait, si vous lisez le sermon sur la montagne, vous pouvez lui faire correspondre chacun des 10 commandements du décalogue. Et Jésus reprend chacun des commandements, mais il le radicalise. On t'a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je te dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es dans le péché. Et c'est pas pour nous culpabiliser qu'il dit ça, ce serait terrible, mais c'est parce qu'il vient nous donner un amour si fort que... Il accomplit ce qui était contenu dans la loi. Et donc, Paul nous dit, mais il ne faut surtout pas oublier l'histoire du peuple juif. Il ne faut pas l'oublier parce que cette histoire a été une longue préparation à la foi en Jésus. Et si la liberté, ce n'est pas une idée abstraite, mais si c'est l'Esprit-Saint venant de Jésus, eh bien, il faudra toujours nous souvenir de nos frères aînés dans la foi, que sont les Juifs, dont est issu Jésus, pour recevoir son esprit d'amour et recevoir cette liberté nouvelle qui donne son sens aux observances anciennes. Mais pour Paul, encore une fois, alors Paul dira donc que si ça vous amuse, enfin, excusez-moi, pas si ça vous amuse, mais si c'est important pour vous d'être circoncis, si c'est important pour vous de suivre les prescriptions alimentaires, d'observer le Shabbat, etc., observez-le. Mais n'embêtez pas les autres. L'important, c'est l'agapé. Vivez les uns avec les autres. Et ce qui est grave, c'est de centrer sa vie sur autre chose que l'amour de charité. Ça, c'est aussi la liberté chrétienne. Oui ?
Vous avez beaucoup mentionné un mot « corps ».
Oui ?
Après la conversion, le peuple de Dieu, après le mystère pascal, vous avez utilisé ce mot « corps ».
Oui.
Et pas avant.
Oui.
Comment est-ce que vous pourriez développer pourquoi il y a ce corps ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore...
Oui. Là, si vous voulez, on passe, je vais dire les choses comme ça, ce sera peut-être plus clair, on passe du corps individuel de Jésus au corps ecclésial. Mais c'est le même. C'est le même du fait du mystère pascal. Le mystère de l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus qui devient notre corps. Hein ? Devenez ce que vous recevez, hein, dit saint Augustin. Oui ?
N'existait pas avant la passion du Christ.
Le mot corps existait. Quelle est votre interrogation ?
On n'utilise jamais le mot corps pour parler le peuple de Dieu avant la passion du Christ.
Non, alors ce qui existait avant, si vous voulez, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est l'idée que le peuple est récapitulé tout entier dans le Christ de Dieu, le Messie, le roi d'Israël. Hein, on parle de personnalité corporative, mais ça, c'est pas les juifs qui parlent comme ça, c'est les exégètes quand ils lisent l'Ancien Testament. C'est-à-dire que quand vous lisez par exemple le texte des psaumes, demandez-vous, mais qui dit je ? Je, c'est un individu, c'est le peuple tout entier, c'est une personne parmi d'autres, quelconque, ou est-ce que c'est le Messie, c'est-à-dire le roi d'Israël ? C'est tout à la fois. Hein. Donc il y avait déjà. Dans la foi juive, cette idée que le peuple tout entier était d'une certaine manière représenté par le Messie, bien sûr, mais que le destin du Messie était le destin du peuple tout entier, que le destin du peuple était le destin du Messie. Ça, c'est très important, je pense, pour l'esprit qui vous rassemble. Hein, c'est-à-dire que la destinée d'un corps, le corps ecclésial, mais aussi un corps social, et la destinée d'une personne, un corps individuel, sont très intimement liées les unes aux autres. Ce que je dis, donc, c'est une vérité, j'allais dire, humaine, le rapport entre le corps individuel et le corps social. Les anthropologues pourraient vous dire ça dans toutes les cultures, etc. Mais le mystère de l'Eucharistie, c'est que de façon très réelle, hein, d'une réalité aussi grande que celle que nous vénérons lorsque nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, le corps de Jésus est devenu l'Église. Et donc, nous devenons, mais de façon très réelle, les membres les uns des autres. Ce que vous vivez dans la foi va m'impacter, on dit ça, c'est très moche, pas m'impacter, va me toucher, et ce que moi je vis dans la foi va vous toucher très profondément parce que nous sommes membres les uns des autres et parce que si mon petit doigt souffre, hein, c'est tout le corps qui souffre. Eh bien, c'est une réalité mystérieuse, surnaturelle, mais c'est une réalité très réelle, très profonde, mais qui n'est possible que par l'opération de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Pentecôte. C'est pour ça qu'on parlait de corps avant, après, il y a un mystère du corps, une réflexion sur le corps avant, mais c'est seulement après la Pâque de Jésus, qu'on va pouvoir parler de façon aussi forte et aussi réaliste de l'Église comme corps du Christ.
Oui, parce que là, vous touchez un point qui est très intéressant et qui m'interroge depuis longtemps, c'est la question de l'esprit et le corps. Mmh. C'est parce que l'esprit nous est donné que nous devenons fils adoptifs de Dieu,
oui.
Et nous devenons corps.
Oui. Vous voyez, il y a toujours un passage entre l'individuel et le communautaire. Hein, toujours. dans les deux sens. Parce que mon corps, il n'existe pas sans un souffle qui l'anime. Et quand le souffle se retire, eh bien, ça n'est plus qu'un cadavre. Hein? Et donc, je reçois, comme personne individuelle, l'esprit de Jésus. Et c'est cela qui fait de moi un membre du corps tout entier de l'Église. Et on voit bien ici que c'est le corps qui va nous faire vivre les réalités spirituelles les plus fortes.
Je pense que ça va vous servir.
Excusez-moi. Je vous en prie, sœur.
On a été interrompu, c'est la demi. Vous m'aviez demandé de vous dire.
Oui, c'est très. Alors, je suis censé. Il faudrait que je vous dise quelques mots de vanne.
Oui. Sinon... On devient membre du corps par le baptême ou par la pratique active de la prière ? Qu'est-ce qui fait que je suis membre ou pas du corps ?
Les deux, mon général. Voilà. Mais c'est le baptême qui. Mais le baptême n'est pas séparable de la pratique. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire le corps n'est jamais séparable de l'esprit en christianisme, parce que c'est pas une idée que nous défendons, mais c'est une personne vivante à laquelle nous sommes unis. Hein, je dirais un peu les choses comme ça, si vous voulez, donc pratique. Alors, je vais vous dire quelques mots de vanne quand même, parce que sinon certains seront déçus. Hein, mon premier. Et puis surtout, si vous le dites à Anne que je ne vous ai pas parlé de vanne, elle va faire une petite crise, surtout qu'elle vous a donné de quoi. Alors, en réfléchissant à l'histoire de vanne, je ne vais pas la reprendre, on en avait parlé la fois passée, vous connaissez l'histoire, vous la découvrirez en lisant le livre de vanne. Me sont venus à l'esprit quelques événements qui ont été vraiment pour lui des événements de libération. Vous savez que cet enfant vietnamien a été très malheureux et très maltraité dans un presbytère pendant son enfance. Et comme il a essayé de fuir le presbytère, il a fugué, il est retourné dans sa famille, mais dans une famille vietnamienne, vous quittez le presbytère, vous quittez le séminaire, c'est que vous êtes vraiment un mauvais garçon qui est la honte de la famille. Et donc, il se retrouve dans une situation de très grand désespoir. Et puis, il fait une prière à la Vierge qui montre la profondeur déjà de sa vie spirituelle, où il lui dit « Personne ne m'aime, Dieu ne m'aime pas, puisque même mes parents ne m'aiment plus, mais, je vais dire les choses comme ça, moi, je choisis d'être fidèle. » Au fond, il choisit envers et contre tout l'amour. Et puis, il va se confesser, et il dit sans doute au prêtre que c'est un grand pécheur, voilà. Et puis, il est tombé, ça arrive, sur un prêtre pas trop bête, intelligent, qui lui dit, dans tout ce que tu m'as dit, en fait, bien sûr, tu as souffert, mais ça, c'est le mystère de la croix. Ça ne veut pas dire que Dieu te maudit, au contraire. Hein, tu es aimé de Dieu. Hein, Dieu te choisit dans ce que tu as vécu. Et ça, c'est un événement de libération. On peut dire que Vanne, au fond, sa libération, elle est double. Elle est d'abord la libération d'une certaine image de Dieu qui est venue se surimposer sur quelque chose de plus profond qui était en lui, la certitude d'être aimé que lui avaient donné ses parents, sa première éducation religieuse. Puis ensuite, on lui a imposé une image de Dieu très, très culpabilisante, en lui disant « Surtout ne va pas communier, tu n'as pas le droit, tu es indigne. Voilà, » bon. Et donc, il a été... Mais bon, c'était des personnes qui avaient autorité, hein, des catéchistes. Donc, pour lui, c'était vrai aussi. Et donc, cette première libération, ça a été progressivement, hein, de découvrir que Dieu n'était qu'amour, que Dieu était amour miséricordieux. Et cette libération... elle a vraiment été totale lorsque il a rencontré Thérèse de l'Enfant Jésus. D'abord, à travers l'enseignement que lui ont donné des Dominicains français qui étaient au Vietnam, à Lang Chun, au Nord-Vietnam, et puis ensuite, en rencontrant de manière mystérieuse et charismatique, extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas, c'est pas du tout mon expérience, hein, qui a été que Thérèse lui parle vraiment intérieurement, et lui disent « Mais oui, mais Dieu est amour, Dieu est ton Père. » Et ça n'est que le pécheur qui a une vision déformée de Dieu et qui craint Dieu. Mais on ne doit pas craindre Dieu, on doit l'aimer. Ça, c'est ça, une grande libération. Et puis la deuxième libération, je pense que c'était une libération par rapport à une certaine image de lui-même, très idéalisée. Il voulait être prêtre, parce que pour lui, de toute façon, se donner à Dieu, c'était être prêtre. Et il a découvert, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, que sa mission, c'était autre chose que d'être prêtre. Sa mission, ce sera de se donner tout entier au témoignage de l'amour. Vivre de l'amour miséricordieux, en être le témoin, point. Et devenir, non pas prêtre, mais comme le cœur du prêtre, hein, dit Van. Et ça, un ami vietnamien m'a dit, Van, moi, je n'y crois pas. Ça, l'histoire, la Thérèse qui parle au cœur, c'est un peu bizarre, moi, je ne crois pas. S'il y a quand même quelque chose qui me fait croire à ça, c'est que Van ait pu, à un certain moment, alors qu'il était, disons, pré-séminariste, dire, mais Dieu me demande autre chose que d'être prêtre. Et on lui disait, mais tu as les capacités, tu vas devenir prêtre, etc. Non, Dieu m'appelle à autre chose. Et alors mon ami vietnamien me disait, là, ça vient vraiment de Dieu. Une telle liberté intérieure vient vraiment de Dieu. Troisième chose que je dis, j'en ai encore deux, je m'arrêterai, puis on pourra échanger un peu plus. Donc c'est par rapport à lui-même. Hein. Autre libération de Van, c'est... par rapport à son image de l'Église, alors ça c'est très important, vous savez, aujourd'hui. Hein ? Il y avait une image très idéalisée de l'Église, des prêtres, et puis il en a souffert. Puis il avait une image très idéalisée de la communauté religieuse dans laquelle il allait entrer, les rédemptoristes. Et quand il est entré à l'intérieur de la communauté, ben, il s'est aperçu que ben, c'est comme partout, hein. Y a des choses belles, il y en a qui ne sont pas belles, mais progressivement, il va comprendre que Dieu est présent, et qu'il y a des choses petites, mesquines, mais qu'il y a aussi de très très belles choses. Et son accompagnateur spirituel, un homme vraiment admirable, Père Boucher, écrit les choses suivantes. Notre postulant, c'était Van, dans ses premiers moment de vie rédemptoriste, s'appliquer à découvrir chez tel confrère son amour de la prière, chez tel autre sa pratique de la pauvreté, de la mortification, chez tel autre encore le silence, le dévouement, et il constata qu'en recherchant leurs vertus, il se sentait porté à les aimer et entraîné à les imiter. Vous voyez comme c'est tout simple et extraordinaire, ça peut changer votre vie. Assure. On a toujours tendance à porter, et c'est normal, on a tous des défauts. Ah, celui-là, non, vraiment. Il a une manière de parler. Puis celui-là, il m'a dit telle chose. Et alors, c'est une façon d'entrer dans la vie. On a toujours des raisons de penser ça, hein, et donc d'être déçu par les autres. Puis à un moment où Van s'est dit, mais je vais raisonner autrement. Je vais essayer de chercher la vertu chez l'autre. Telle personne a quand même... Elle peut avoir très mauvais caractère, mais... La pauvreté religieuse, elle le vit de façon très évangélique et elle est présente aux pauvres, etc. Telle personne, c'est un gourmand, c'est un goinfre, mais le silence, quand cette personne prie, quand cette personne se met en silence, etc. Et à partir de moment-là, il s'est dit, mais chacun de mes frères, puisque c'était une communauté d'hommes, m'est donné comme un appel à pratiquer la vertu. Ça, c'est admirable. Ça va changer notre regard, le regard que nous pouvons poser sur l'Église, et ça va nous transformer nous-mêmes. Et tout cela conduit, c'est mon dernier mot, à l'admirable liberté que Van montre à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il dit « Moi, je veux partir là où on n'aime pas Dieu. » Et il part donc à Hanoï, qui est sous régime communiste, il va être très vite arrêté, il va être interné dans un camp, et puis transféré encore dans un autre camp, il va fuir pour aller chercher l'Eucharistie et la rapporter aux prisonniers, mais il sera rattrapé, il sera mis au cachot, c'est comme ça qu'il va mourir, on peut dire que c'est un martyr. Eh bien voilà ce qu'il dit dans le dernier camp, c'est quelques temps avant de mourir, mais dans le contexte des camps de concentration communiste. Je remercie Dieu de tout cœur. Ces mois de réclusion m'ont causé aucun préjudice à ma vie spirituelle. Très souvent, Dieu me fait voir que c'est sa volonté que j'accomplis ici. Plusieurs fois, je lui ai demandé de venir me chercher. Ça veut dire qu'il voulait mourir. Chaque fois, il m'a semblé que Dieu me répondait, « Mon enfant, pense à tous ceux qui viennent à toi chercher des consolations que je distribue par toi. À qui irait-elle ? Comment arriverais-je jusqu'à elle si tu me faisais défaut ? Jusqu'à elle, pardon. Si tu me faisais défaut. Je n'ai pu répondre qu'un mot, « Mon Dieu, je veux t'obéir en tout. » Ça, c'est la liberté dans l'amour, et ça, c'est la sainteté chrétienne. La sainteté chrétienne, c'est ça, c'est d'être libre d'aimer.
On a un peu de temps pour des questions, mais il y a aussi le temps pour s'installer, donc c'est, je sais plus, c'est chacun de les voir. C'est une question, une petite partage de joie. En fait, quelle année il y a le grand colloque à Lisieux, père
C'était en 2009, je crois.
2009, j'ai participé à.
Oui, allons-y, colloque.
Colloque sur la vie de Marsalvan. Et là, j'ai rencontré la famille de Marsalvan. Donc, c'est par chance, j'ai emmené la sœur et trois nièces de Marsalvan à Lourdes. Et c'est le souhait le plus profond de la grande sœur de Marsalvan. Je crois qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Et pendant 2 jours à Lourdes, donc, elle m'a raconté quelques souvenirs de Marsalvan. C'est surtout à chaque fois quand Marsalvan a l'occasion de rentrer dans le village, retour dans la famille. Et comme vous avez décrit la famille, l'ambiance est très difficile. Donc la grande sœur qui consonne à Marsalvan. Donc c'est, peut-être qu'il a des difficultés avec ses parents. Mais avec la grande sœur, par contre, c'est la confidence. Voilà. Donc, c'est qu'elle m'a dit qu'elle a gardé des souvenirs de Marsalvan. Il aurait quel âge,
merci. Il est né en 28, donc il aurait 92 ans.
Il y en a une vietnamienne qui a exactement son âge.
J'ai deux questions. La première est plus simple. Pourriez-vous expliquer plus le mot agapé ? La deuxième question, c'est que la liberté, la foi et la liberté, c'est vraiment croire en l'amour infini de Dieu, et être libre, répondre à cet amour. Comme Dieu nous a aimés, nous retournons cet amour, pareillement. La pratique, cette question concerne la pratique de l'adoration. Nous sommes là, on va adorer Dieu, mais quel sens de regarder l'Eucharistie si le corps n'est plus là, mais nous.
Oui. Pour l'agapé, c'est un mot. Donc le correspondant en latin c'est caritas, ça signifie donc un amour, mais un amour de grande qualité, je dirais, hein, en grec, le mot grec. Hein, les écrits des apôtres utilisent ce terme pour parler de cette manière toute nouvelle que l'on a de s'aimer dans les communautés chrétiennes. Hein, il y a une façon très particulière d'aimer le prochain qui est enraciné dans le Christ. On ne peut pas s'étendre trop sur les différentes manières de dire l'amour, mais je dirais que c'est cet amour qui est si fort, encore une fois, qu'il donne la puissance de pardonner, d'être patient, et qui est enraciné dans la réalité même de Dieu. et du Christ.
Peut-dire aimer sans limite ?
Pardon ?
Aimer sans limite ?
Oui, on peut dire ça.
Ouais.
Mmh. Oui. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, hein, disait Saint Bernard. Voilà. Alors, l'autre question, je n'ai pas dit que le corps du Christ n'était pas dans l'hostie, hein, mais qu'il était dans la communauté. Hein. Certains ont pu le dire, mais ça n'est pas la foi de l'Église. Il faut tout tenir. Hein. Le corps dont je parle, c'est d'abord le corps du Christ. Hein. Et c'est donc le corps que le Christ a fait sien. Ça, c'est une première chose. Et le mystère, c'est que ce corps qui est le corps du Christ, il s'étend à tous ses membres qui forment l'Église. C'est un mystère de communication, de participation. C'est comme si vous aviez une réalité qui venait en envelopper une, et en constituer une autre, si je puis dire. Hein ? Vous m'interrogez ensuite sur le sens de l'adoration. Hein ? Je pense que l'adoration doit être rapportée à l'Eucharistie, bien sûr. Hein ? L'Eucharistie nous est donnée, c'est Jésus qui donne son corps et qui le donne pour que nous l'assimilions, pour que nous le mangions et pour que nous devenions. Donc quand on mange quelque chose, d'une certaine manière, alors c'est Saint Augustin dit ça, quand vous mangez quelque chose, cette chose devient ce que vous êtes. Mais là, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est vous qui devenez ce que vous avez reçu dans l'Eucharistie. Il y a quelque chose de très matériel et qui va produire quelque chose de tout à fait spirituel, mais de manière très très réelle, pas symbolique, c'est encore une fois très réellement que nous devenons membres les uns des autres en Jésus. Alors, l'adoration, c'est parce que c'est beau. Ce mystère de Jésus qui donne son corps pour faire de nous les membres de son corps. Et que ça mérite que nous nous arrêtions pour un simple regard d'amour. C'est comme lorsque, vous savez bien, quand vous aimez quelqu'un, il y a des moments où vous voulez vous poser et puis où vous voulez profiter de sa présence. Et c'est quelque chose qui ne se démontre pas, mais qui s'expérimente dans l'adoration, avec peut-être les tempéraments de chacun, mais ce sentiment fort de la présence de l'autre, et ça me suffit. Et je reste un moment, je ne passerai peut-être pas toute ma vie, mais je reste un moment heureux, simplement, de cette présence, et à l'écoute, c'est les deux mots qu'on doit retenir quand on parle de la contemplation chrétienne, à l'écoute de ce qui me dit « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute ». La liberté chrétienne, c'est aussi être disponible à l'écoute. Moi, de l'adoration, je me pose, je me rends présent et disponible à ce que Dieu est et à ce que Dieu veut me dire. À partir de ce geste merveilleux de Jésus qui me donne son corps pour que je devienne ce qu'il est, ou que nous devenions ensemble, en communion, ce qu'il est. Oui, il ne faut pas dépasser.
Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.